et qui donne déjà des averses depuis les Pays de la Loire jusque vers la Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, ce sont ces averses qui vont dans la journée gagner du terrain à l'intérieur des terres et qui se dirigeront vers la Normandie, le bassin parisien, le centre, l'Auvergne, mais également le Limousin. Alors qu'au bord de la Méditerranée, on va conserver le soleil avec un petit peu de vent et des températures qui, dans la journée, atteindront les 11 à 17 degrés de façon générale et qui pourraient atteindre les 18 degrés vers la Méditerranée.
Merci beaucoup Rémi André. Très belle journée avec Sud Radio. Merci d'être avec nous ce matin. Il est 8h. Sud
Radio. Parlons vrai.
Le journal de 8h, Laurie Leclerc. Bonjour Laurie.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Les épreuves des Jeux Olympiques au milieu de tas d'ordures. L'ultimatum des éboueurs parisiens qui menacent de faire grève.
Plus de logements sociaux, mais des conditions de revenus plus strictes pour en bénéficier. Le projet de loi logement arrive aujourd'hui en Conseil des ministres.
Une adolescente agressée au couteau par un autre élève en plein cours à Toulouse, un établissement entier sous le choc.
Si vous avez loupé le coche en ligne mercredi pour vous inscrire sur les listes électorales, c'est encore possible aujourd'hui, mais en mairie.
On commence avec donc cette inquiétude. À 2 mois des Jeux Olympiques, y aura-t-il des tas d'ordures de poubelles dans les rues de Paris au moment des épreuves?
Les éboueurs parisiens ont déposé un préavis de grève. Ils réclament une prime exceptionnelle de 1 900 euros pour les agents qui seront sollicités lors des JO cet été. Également une augmentation pérenne de leur salaire. Jules Boscherini, est-ce que les Parisiens craignent de voir des montagnes d'ordures sur leur trottoir?
C'est une situation très redoutée pour ces Parisiens, mais pourtant, ils ont du mal à accorder leur violon.
Ils font comme les autres, ils en profitent. Il y a déjà tellement de gens qui en ont eu, donc ils doivent se dire pourquoi pas nous.
On ne peut pas tout mélanger, on ne peut pas mettre non plus les Parisiens en otage.
Les Parisiens ne sont pas vraiment pour les Jeux Olympiques, donc je trouve ça complètement correct et normal qu'ils soient plus payés parce qu'il y aura plus de travail.
Côté hygiène, là aussi la grève pose problème. Ludovic vit en plein cœur de la capitale et pour lui, il est inenvisageable de revivre la même situation que l'an passé.
On va vraiment passer pour des branquignoles. Bon, je vais pas revenir sur les rats, la Seine qui est dégueulasse. Effectivement, en plein mois de juillet, août, ça va être un cauchemar.
Et pour éviter le cauchemar, certains Parisiens s'adaptent. C'est le cas de Dorothée qui a opté pour une solution un peu drastique.
Je vais me casser de Paris pour les Jeux Olympiques parce que comme ils ont volé le Champ de Mars pour leurs épreuves, je ne peux plus promener mon chien qui a besoin de courir quelque part. Donc ça va être intenable.
Mais pour Guillaume qui habite dans le 19e arrondissement, il en va aussi de la responsabilité de la mairie.
Un homme ou une femme politique en responsabilité se doit justement d'anticiper. Ils ont toutes les données et il ne faut pas soit les prendre en otage ou attendre que ça dégénère et il faut tout prendre en compte.
Pour tenter de trouver une solution, la mairie de Paris a indiqué que la CGT sera reçue la semaine prochaine par Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la maire Anne Hidalgo.
Un reportage de Jules Boscherini.
Autre menace de grève à la SNCF malgré un accord tout juste signé sur les retraites.
Les syndicats des cheminots d'Île-de-France annoncent un mouvement social pour le 21 mai prochain. Ils réclament aussi de meilleures conditions de travail pendant les Jeux Olympiques. Nouvelle menace de grève alors qu'un accord avantageux vient d'être conclu avec les syndicats sur les fins de carrière des cheminots. Cet accord leur permet de cesser leur activité avant la retraite en étant pendant un an rémunérés à 75% de leur salaire pour certains. Alors le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, va devoir répondre de cet accord devant le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Une convocation pour satisfaire l'opinion publique, selon Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail.
Ils ont compris que l'accord n'était pas très populaire auprès de l'opinion publique, donc ils veulent tirer les oreilles du PDG de la SNCF. Quand on fait grève, c'est pas bien. Quand on trouve un accord pour pas faire grève, c'est toujours pas bien. Voilà, donc on est une entreprise florissante qui fait des bénéfices et qui a tout simplement les épaules et les moyens de financer ce type d'accord. Donc, je pense qu'il y a, voilà, il y a de la politique politicienne, mais j'espère que la direction de la SNCF, elle rentre pas dans ce genre de prérogatives.
Fabien Villedieu, un délégué syndicat de le Sudrail.
Sciences Po Paris restera fermé aujourd'hui. Les militants pro-palestiniens occupent à nouveau l'université.
Après le débat hier entre direction et étudiants pro-palestiniens jugés par eux décevants mais sans surprise, il y a une nouvelle occupation des locaux qui a été décidée. Quelques dizaines d'élèves sont présents sur place. 6 d'entre eux ont également entamé une grève de la faim.
Tenter d'augmenter le nombre de logements sociaux mais avec des conditions d'accès plus strictes. Le projet de loi arrive aujourd'hui en Conseil des ministres.
Parmi les mesures envisagées par le ministre du Logement Guillaume Kasbarian, 25% de logements intermédiaires inclus dans le quota des logements sociaux, également des surloyers qui seront appliqués cette fois-ci dès le premier euro de dépassement au lieu de 20% aujourd'hui, et en cas de dépassement du plafond de 20% 2 ans de suite, le bail social sera automatiquement résilié. Les plafonds de revenus seront par ailleurs abaissés. Les permis de construire pourront être obtenus plus rapidement.
Le choc du côté de Toulouse dans un lycée où une élève a été poignardée par un autre élève.
L'élève de 19 ans en terminale a été interpellé interpellé et placé en garde à vue. L'origine de l'agression est, selon le premier élément de l'enquête, un différend amoureux. La jeune fille de 16 ans souffre de blessures superficielles, Christine Bouillot, grâce à la réaction d'un autre élève.
Si l'adolescente de 16 ans, élève de seconde dans ce lycée, ne souffre que de plaies superficielles au niveau du bras, elle le doit en effet à la réaction d'un de ses camarades, comme le raconte un témoin de la scène.
En gros, il a gardé son sang-froid, et il a pris par le cou, et il l'a mis par terre, et après il lui a mis des tartes. Et après, il a maîtrisé, la police est venue, voilà.
Les faits se sont déroulés dans le gymnase du lycée. Rapidement maîtrisé et interpellé par la police, l'agresseur, un élève de terminale âgé de 18 ans qui jusqu'ici n'avait fait parler de lui que pour ses absences répétées, a fini par expliquer son geste. Il se disait amoureux de cette jeune fille, Mostafa Fourard, le recteur de l'Académie de Toulouse, qui s'est rendu sur les lieux hier, en fin de journée.
Il prétend être amoureux et il n'a pas dit à la CPE il faut appeler la police. Donc c'est-à-dire que manifestement, il était conscient de ce qu'il a fait et de la gravité de la situation.
Évidemment, l'émotion est forte dans ce lycée professionnel où toute la communauté éducative tente de changer l'image de cet établissement situé dans le quartier des Isards. Une cellule psychologique sera mise en place dès aujourd'hui.
Un reportage de Christine Bouillot.
Emmanuel Macron persiste et signe envoyer des troupes occidentales en Ukraine n'est pas exclu pour lutter contre la Russie.
Dans une interview au journal britannique The Economist, le chef de l'État explique qu'on devrait légitimement se poser la question d'envoyer des troupes au sol en cas de percée de la ligne de front par les Russes et s'il y a une demande de l'Ukraine.
Nous sommes à un mois des élections européennes, quasiment jour pour jour. Ce sera le 9 juin. Et si vous avez manqué de vous inscrire en ligne sur les listes électorales, vous avez encore jusqu'à ce soir pour le faire en mairie.
Plus de 10 millions de personnes sont mal, voire pas du tout inscrites sur les listes électorales selon l'INSEE. Alors avis aux retardataires, il faut faire vite Clément Barguin.
Si vous n'êtes inscrit sur aucune liste électorale, vous pouvez encore vous rendre dans votre mairie avec les documents nécessaires, un justificatif de domicile et une carte d'identité ou un passeport. Attention, vous avez jusqu'à ce soir pour le faire. Le délai est allongé au 30 mai, mais seulement dans certains cas très particuliers. Par exemple, pour les personnes qui deviendront françaises ou majeures entre le 4 mai et le 8 juin, ou encore pour les fonctionnaires qui déménageront dans cet intervalle. Si vous ne savez pas dans quel bureau de vote vous êtes inscrit, vous pouvez le vérifier via le site servicepublic.fr. Enfin, si vous souhaitez qu'une personne vote à votre place, plus besoin de vous déplacer dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, vous pouvez faire une procuration en ligne en vous rendant sur le site maprocuration.gouv.fr.
Et du côté des élus, la course européenne s'accélère avec le premier face-à-face hier soir entre Jordan Bardella et Valérie Ayer. Parmi les gros points de désaccord, l'entrée ou non de l'Ukraine dans l'Union européenne. On le rappelle, côté sondage, le Rassemblement national est en tête à 31% d'intention de vote contre 16,5% pour la majorité.
Les mines de Chablis ravagées par la grêle 24 heures après la tempête, l'heure est à constater les dégâts.
Le bilan est parfois lourd pour certains producteurs qui ont 100% de leurs pieds de vigne touchés. Déjà victimes du gel et des inondations, l'orage s'est abattu sur les 6000 hectares de vignes de Chablis. Les pertes sont donc lourdes de par endroits, comme pour Laurent Robin, viticulteur.
Mon fils qui habite dans Chablis, il a 25 ans, il n'a jamais vu ça, du vent dans tous les sens. Tous les arbres à l'entrée de Chablis étaient plumés, toutes les feuilles étaient par terre, déchiquetées par la grêle. J'ai des parcelles qui sont mâchées à 95, 90, 100%. Si je fais le compte du potentiel qui reste, si on fait 50% de la récolte, ça sera vraiment le maximum. Avec la violence qu'il y a eu, c'est une fois tous les 10 ans, quoi. On va travailler pendant 4 mois pour rien.
Laurent Robin, viticulteur.
Allez, on poursuit ce journal avec de la musique classique, accessible à tous. L'opération Tous à l'Opéra revient tout au long de ce week-end pour sa 17e édition.
L'initiative démarre aujourd'hui dans toute la France. Elle vise à faire découvrir l'univers lyrique et de la danse au plus grand nombre. Frédéric Perrucci, directeur de la Réunion des Opéras de France.
On sait que parfois on peut avoir des a priori sur l'opéra et que ça peut être un peu difficile d'oser franchir les portes. On cherche plutôt à montrer une autre réalité de ce qui se passe dans les zones d'opéra. Donc il y a une variété de propositions très large qui est faite. Ça passe par des visites des coulisses, des ateliers de pratique, des répétitions ouvertes, des rencontres avec les techniciens. Et l'idée, c'est vraiment d'aider tout le monde à pousser les portes des opéras du territoire. Donc cette opération, elle s'adresse à tout le monde avec l'idée d'offrir une façon singulière et gratuite de découvrir le monde de l'opéra.
Frédéric Perrucci, au micro de Clément Arion.
Et on termine avec du football. L'Olympique de Marseille a quelques regrets, mais encore peut encore y croire à sa finale en Ligue Europa.
Et rien n'est encore fait pour l'OM après ce match nul un partout au stade Vélodrome hier soir contre l'Atalanta Bergame. C'était en demi-finale aller de Ligue Europa. Amine Harit, l'attaquant de l'OM, a toutefois quelques regrets.
On avait un plan tactiquement, on savait comment aller les chercher, aller les presser, voilà. Et surtout que c'est un système dans lequel on a joué la saison dernière, c'est un peu similaire à ce qu'on faisait. Donc on savait ce qu'il fallait faire pour les mettre en difficulté. Je pense qu'on aurait dû faire un peu plus garder le ballon. À un moment, on est tombé un peu dans ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire les jeux longs. Voilà, on sait qu'ils aiment le duel. Mais malgré tout, je pense que ce soir, on a fait une très très belle rencontre.
Amine Harit, l'attaquant de l'OM au micro de Canal+. L'avant-match a toutefois été entaché par des insultes racistes et des saluts nazis dans les tribunes des supporters italiens. Le procureur de la République a été saisi. En ce qui concerne l'autre demi-finale, le Bayer Leverkusen a battu l'AS Rome 2-0. Les matchs retour pour toutes les équipes auront lieu jeudi prochain.
Merci beaucoup Laurie Leclerc. Sud Radio, il est 8h10. Vous le savez, 8h30, vous retrouvez Jean-Jacques Bourdin, son invité politique ce matin. C'est François-Xavier Bellamy, député européen. Et puis tête de liste LR pour les élections européennes du 9 juin prochain. D'ailleurs, on va en parler assez largement de ces élections européennes dont, dites-le franchement, le débat jusqu'à 8h30 avec nos deux débatteurs ce matin, Frédéric Dabi et Guillaume Bigot, qui nous retrouvent dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Les French Days arrivent chez Marionneau. Profitez de moins 32% des 79€ d'achat et moins 25% des 49€ d'achat du 30 avril au 7 mai. En ce moment, retrouvez la poudre bronzante All Hours Hyper Bronze de Yves Saint Laurent à moins 25%. L'occasion parfaite de dénicher le cadeau idéal pour la fête des mères. Alors n'attendez plus, rendez-vous vite en magasin ou sur marionneau.fr et retirez votre commande en une heure seulement grâce au Click and Collect. Voir conditions en magasin sur marionneau.fr dans la limite des stocks disponibles.
Écoutez Sud Radio Valenciennes en DAB+.
Sud Radio.
Il était une fois un charmant jeune homme super stressé par l'arrivée imminente de sa dulcinée. Vite, vite, une idée pour dîner. Oh, les tomates rondes en grappe origine France à 1,99€ le kilo chez Aldi. C'est parti pour la recette adorée de sa belle, les tomates à la provençale. Eh, t'as géré, mec. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, offre valable jusqu'au samedi 4 mai. Info sur aldi.fr.
Pourquoi communiquer sur Sud Radio ? Tout simplement parce que c'est la radio qui fait partie de mon quotidien. Et celui de millions de personnes aussi. Alors ça m'a paru évident.
Frappez un grand coup ? Communiquez sur Sud Radio partout en France pour faire connaître votre marque, votre activité, vos produits, vos événements. Notre équipe est là pour vous conseiller. Régie@sudradio.fr.
Gémeaux, le prêt à vivre. Si vous êtes prête à faire profiter des beaux jours à vos pieds qui en ont marre eux aussi de rester enfermés tout l'hiver.
Libère-nous !
Alors vous êtes prête à profiter d'une offre exceptionnelle pour toute la famille. En ce moment, chez Gémeaux, profitez du super déstockage avec une sélection de chaussures à petit prix. Offre valable jusqu'au 14 mai. Conditions en magasin et sur gémeaux.fr.
Nouveau magazine Journal de France, actuellement en kiosque. Retrouvez une interview avec Ophélie Meunier, animatrice star d'M6. Sylvie Vartan, elle revient sur sa carrière. Des nouvelles de la santé de Kate Middleton. Les coulisses du Festival de Cannes avec Camille Cotin et Léa Seydoux. Charlotte Gainsbourg, elle reprend sa vie en main. Gabriel Attal, un premier ministre qui veut agir. Journal de France, un magazine La Fond Presse, en vente chez votre marchand de journaux.
Chez Conforama, on pense à ceux qui auraient bien besoin d'une pause fraîcheur.
Avec moins 50€ sur le réfrigérateur combiné Hisense et son distributeur d'eau à 399,99€.
Eh oui, pas de pause sur les bonnes affaires. Conforama, jusqu'au 3 juin, voir conditions sur conforama.fr.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de cabillaud entier vidé est à seulement 5,99€.
À ce prix-là, c'est vraiment une bonne pêche. Et en plus, il y a marée basse sur son prix.
Justement, c'est l'occasion ou jamais.
En tout cas, moi, je me jette à l'eau.
Eh ben moi aussi. Auchan, avec plaisir. 5,99€, le kilo de cabillaud entier vidé avec tête. Pièce de 2 à 4 kilos élevée en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Benjamin Glaise.
Sud Radio, il est à 8h14. On est de nouveau avec Guillaume Bigot qui nous a rejoint. Guillaume, et puis face à vous, Frédéric Dabi qui nous a rejoint également pour parler de ce rolling des européennes, IFOP fiduciale pour le Figaro, LCI et Sud Radio. Il faut dire qu'on est dans la toute dernière ligne droite. On est à quasi un mois des élections européennes. Ce sera le 9 juin prochain. On va faire un point tout d'abord sur les tendances. Vous le savez, tous les jours sur sudradio.fr, vous retrouvez ce rolling sur les intentions de vote, alors à ce jour, bien sûr, jour après jour, pour ces élections européennes, Frédéric Dabi, c'est quoi les tendances, on va dire, principales de ces derniers jours ?
Les trois tendances que je vois qui sont assez proches un jour après jour dans un contexte on n'est pas encore dans la dernière ligne droite, les Français ne sont pas encore rentrés dans cette campagne, même si l'intention de participer est quand même beaucoup plus forte qu'en 2019. Est-ce que c'est les ferments du vote sanction? C'est un élément à prendre en compte. Un RN qui fait la course en tête à des niveaux stratosphériques, depuis la liste RPR-UDF de Simone Veil en 84, personne n'avait dépassé 30-31%, elle avait fait Simone Veil 42,5% en 84, avec un RN qui est fort partout. Dans notre enquête d'hier, par exemple, la liste Bardella est à 30% chez les retraités, donc une avance très forte de plus de 15 points sur la liste de la majorité qui pâtit d'un vote sanction. Quand on regarde le rolling de près, on se dit que ça ne bouge pas. Quand on recule de quelques mètres, on voit la courbe avec une baisse. Elle était encore, Valérie Ayé, à 21% une semaine avant le déclenchement du rolling. Elle est autour de 16%. Une difficulté à rassembler l'électorat Macron parce que une partie importante de cet électorat, j'ai envie de dire, retourne au bercail de François-Xavier Bellamy, de Raphaël Glucksmann surtout. Et troisième enseignement, la percée Glucksmann, 3 points d'écart avec la liste Valérie Ayé, 13,5%. On n'est pas dans la marge d'erreur, mais il y a peut-être une possibilité, soyons prudents, d'inversion. Et puis dans le match de la gauche, clairement, la ligne social-démocrate surclasse la ligne radicale de la France insoumise. On sait très bien qu'une élection européenne n'a jamais, traditionnellement, d'impact sur le cycle électoral. Une exception, cette élection. Et c'est pour ça peut-être que les gens ont envie de voter. Et sauf dissolution que personne ne peut prévoir ici autour de cette table, la seule élection à dimension nationale du quinquennat. Donc peut-être que ce qui sortira des urnes le 9 juin aura plus d'impact que par le passé.
Et Guillaume Bigot, plus d'impact et puis ce qui joue aussi sur l'intérêt, peut-être la participation, de se dire que voilà, c'est une élection finalement qui peut être aussi un moment charnière, un moment peut-être de sanction de la politique d'Emmanuel Macron, c'est maintenant ou jamais quoi.
Alors, moi, Frédéric est le spécialiste de l'étape et du sondage. Moi, je pense que d'abord, il nous confirmera, mais l'abstention est la véritable variable d'ajustement dans cette affaire. C'est ce qui peut faire des écarts à l'arrivée, et notamment pour la liste Bardella qui caracole en tête, parce que il y a une abstention traditionnellement forte pour les européennes, et il y a une abstention encore plus forte pour les électeurs du RN aux européennes. Donc on va voir si cette nationalisation de l'enjeu, si le fait que Bardella morde sur d'autres CSP maintenant... Il y a des choses qui sont quand même très étonnantes en matière de CSP+. Bardella est quasiment plus haut que Valérie Ayé. Il arrive à sortir, de son écosystème, de l'écosystème naturel du RN, en mordant encore faiblement, mais un peu sur les retraités, par exemple, dans la France de l'Ouest, etc. C'est le premier point. Variable d'ajustement, abstention, faut faire très attention. Deuxième point. Est-ce que c'est pas la deuxième élection européenne, je pose la question aussi à Frédéric Dabi, où on n'assiste pas à une sorte de duel en quelque sorte quoi. Alors le duel était beaucoup plus net en 2019 puisqu'on avait la liste macroniste et on avait la liste du RN, souvenez-vous, qui se tirait la bourre. Donc vraiment ça confirme aussi la nationalisation complète de cette élection européenne finalement sur des enjeux nationaux. Et là on voit finalement une nationalisation en demi-teinte, c'est-à-dire qu'on a bien le premier, le challenger, enfin on a bien Jordan Bardella, et en face on a deux listes qui sont un peu molles quoi. Finalement une liste quand même qui monte, celle de Glucksmann, et la liste d'Ayé qui descend. Moi la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que vraiment il y a l'explosion façon puzzle du macronisme, c'est-à-dire la droite et la gauche se reforment sous nos yeux, ou est-ce que c'est simplement on ne sait pas laquelle des deux va pouvoir incarner, disons, la France d'en haut ou la France des bobos?
Frédéric Dabi.
Oui, je partage l'analyse de Guillaume et je trouve la référence à 2019 très intéressante. Vous vous souvenez, Benjamin, le rolling IFOP fiducial de 2019 avait donné 6 ou 7 inversions, croisements de courbes entre la liste Nathalie Loiseau et la liste Bardella. Ça s'est terminé à 0,9. On était quand même dans le vrai quand il y avait une telle incertitude. Là, clairement, il n'y a pas d'incertitude. Et c'est vrai qu'on voit des ferments du vote sanction qui a touché le PS en 84, la UMP en 2004, la liste Hollande-Valls, si je puis dire, en 2014, 13% 99%. On se souvient que la sanction avait été extrêmement forte. Et ces ferments du vote sanction se reproduisent dans notre rolling d'hier où il y avait des indicateurs hebdomadaires. On a 41% des personnes qui expriment une intention de vote qui disent « Pas mon vote, je veux sanctionner le gouvernement et Emmanuel Macron ». On était à 2 fois moins en 2019. Et en 2019, Emmanuel Macron sortait du grand débat. Il incarnait pour la droite l'ordre et la sécurité après les Gilets jaunes. On n'est plus du tout dans ce contexte. Alors, je ne parlerai pas de bloc mou, je parlerai d'une force qui a du mal à éviter le vote sanction avec une incarnation intéressante mais très peu connue des Français, Valérie Hayé. Il y a beaucoup de débats dans les prochaines semaines, elle va sans doute se faire plus connaître, même si la forme hier, on va en parler, était quand même un peu légère face au gros lot compresseur Jordan Bardella, et quand même une liste PS, place publique, j'ai envie de dire une liste Glucksmann qui a la chance d'avoir potentiellement trois sources électorales. Le vote Jadot de 2019, l'homme fort de la gauche, le vote Mélenchon de la présidentielle, dans le rolling d'hier, 25% ou 26% des électeurs Mélenchon choisissent Glucksmann, c'est même monté à 33% en début de semaine, et ce vote Macron, c'est-à-dire le retour au bercail dont vous parlez, Guillaume.
Allez, on reste ensemble sur Sud Radio, Guillaume Migaud et Frédéric Dabi, on revient dans un instant, je vous le rappelle, bon, on va parler aussi des européennes à 8h30, 9h, l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin, la tête de liste LR pour ces européennes, François-Xavier Bellamine. On continue justement de débattre, notamment de ce rolling que vous retrouvez sur sudradio.fr, les intentions de vote à un mois pratiquement des élections européennes. À tout de suite.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Carrefour.
Quand vous me dites, alors moi je ne comprends pas les gens qui font les choses à moitié. Eh bien ça me donne envie de vous dire, achetez votre lessive chez Carrefour et recevez 50% du montant de vos achats en bon d'achat. Et c'est valable sur les lessives, même en promotion. Du coup, ah bah ça, c'est la moitié qui fait plaisir. Et c'est jusqu'à dimanche dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Des 20€ et jusqu'à 30€ d'achat, bon d'achat valable du 6 au 12 mai, modalité complète sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Sud Radio Brive-la-Gaillarde.
97.8.
Sud Radio.
Grand frais.
Allô chef, c'est Damien, votre seconde cuisine. Pour le service de ce midi, je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont un côte de Provence, parfait pour mon barbecue. Donc il y a mon beau-frère qui va vous donner un coup de main, la bonne bouffe, il connaît bien.
Pour la foire au vin de printemps chez Grand Frais, jusqu'au 18 mai, le Côte de Provence AOP Lalamande est à 6,50€ la bouteille de 75 centilitres si de acheté. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand Frais !
Le meilleur marché.
Soit 13€ le lot de 2, soit 8,67€ le litre. Magasin ouvert ce mercredi 8 et jeudi 9 mai de 9h à 13h. Liste horaire sur grandfrais.com. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Avouez-le, c'est bien pratique les vélos électriques. Surtout quand les beaux jours reviennent et que vous rêvez de petites balades en forêt.
Comment ça, petites ?
Ok, alors pour les petites et les grandes virées, chez Decathlon, on a conçu un vélo tout chemin électrique avec une autonomie jusqu'à 100 km. Et pour vivre le sport grandeur nature, cette semaine, le vélo électrique Riverside 520E est à 999€ au lieu de 1399, soit 400€ de réduction.
Decathlon, élu meilleure chaîne de magasins de sport de l'année.
Carrefour. Avec votre carte Carrefour, il y a 30€ offerts en bon d'achat des 100€ d'achat sur tout l'alimentaire, l'hygiène, la beauté, l'animalerie, les produits d'entretien, même en promotion. Et c'est jusqu'à dimanche dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors alcool, parapharmacie et petit électroménager dans la limite de 3 bons d'achat de 10€, modalité complète sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Allô Mel ?
Oui ?
Faut que je te raconte, je viens de choper un bon plan de dingue chez Distri Center. Pour 2 t-shirts enfants achetés, le 3e est offert.
Mais non !
Mais si ! Et c'est à partir de 2€ le t-shirt si t'en prends 3.
Mais non !
Mais si ! Dépêche-toi, c'est seulement jusqu'au 7 mai chez Distri Center. Allez, bisous !
Distri Center, voir conditions en magasin et sur districenter.fr.
IKEA.
On est quand même bien au soleil sur notre balcon, hein.
Mais tellement.
Mais il manque un truc.
Un serveur qui fait « Ah, je vous sers quelque chose ?»
Ouais, enfin, surtout une table et des chaises.
Notre nouvelle offre va mettre tout le monde dehors. Jusqu'au 12 mai, profitez d'au moins 20% sur les tables et chaises d'extérieur avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous en magasin et sur IKEA.fr.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Benjamin Glaise.
8h24 sur Sud Radio, vous le savez, je vous le rappelle, hein, tout à l'heure, 8h30, Jean-Jacques Bourdin, son invité politique, François-Xavier Bellamy, député européen et tête de liste LR pour les élections européennes. D'ici là, on continue de débattre avec Frédéric Dabi, avec Guillaume Bigot. Une donnée intéressante, assez marquante, c'est quand on fait le calcul, l'addition de toutes les listes de gauche, on arrive à peine aux intentions de vote de la liste RN Jordan Bardella, qui se permet même de draguer les électeurs qui, je le cite, ont eu le cœur à gauche et qui auraient perdu bien avec la gauche les valeurs républicaines, qui aimeraient les retrouver. Donc pourquoi pas au RN, Guillaume Bigot, une réaction par rapport à cela.
Bon, d'abord, ça correspond à une tradition aussi de droite, hein, qu'on appelle le gaullo-bonapartisme. C'est André Malraux qui disait du RPF, c'est le métro aux heures de pointe. Donc voilà, le RPR à sa grande époque avait aussi une dimension très populaire, très populo, avec un électorat populaire. Donc il retrouve ça, finalement, au RN. Deuxième point, la question, quand même, est-ce que la gauche est toujours à gauche? C'est-à-dire, la gauche, qu'est-ce que c'est? Au fond, c'est l'alliance entre la raison, la promesse des Lumières, et la défense de la question sociale des petits, des sans-grades. Alors, excusez-moi, mais du côté des écolos, qu'est-ce que c'est? C'est les murs végétalisés, les trottinettes, c'est-à-dire pour les CSP+, et centres-villes, améliorer le cadre de vie et fermer les usines et démolir l'agriculture. Très bien. Qu'est-ce que c'est la gauche du côté de Jean-Luc Mélenchon? C'est exciter l'extrême droite islamiste dans les cités, qui travaille les cités, qui veulent voiler les femmes et s'attaquer aux juifs. Très bien. Qu'est-ce que c'est la gauche maintenant du côté de Monsieur Glucksmann? Bah, réponse, c'est quand même une partie du macronisme, c'est-à-dire là encore la défense des cadres sup mondialisés qui veulent simplement revendiquer une sorte de particule, être de gauche, comme s'ils avaient voilà un côté un peu plus chic. Donc ils sont pour la mondialisation, ils sont pour les grandes entreprises, mais en même temps ils veulent qu'on reconnaisse un peu leur grand cœur, voilà. Donc moi à mon avis, la gauche étant plus à gauche et le Parti communiste étant un peu faible, c'est le Rassemblement national qui la recapte.
Oui, on a eu cette tendance hein, historique hein, déjà de cet électorat populaire communiste, une grande partie qui a rejoint les rangs du Rassemblement national. Frédéric Dabi, est-ce qu'il a raison? Est-ce que ça peut jouer, Jordan Bardella? Est-ce qu'il peut choper des voix, là, à gauche encore?
Il en chope déjà, quand on parle, je suis oublié de la gauche, quand on parle des catégories populaires, quand je vois l'intention de vote présidentielle qu'on a faite ensemble la semaine dernière avec le Figaro Magazine et Fiducial, Marine Le Pen dépasse les 55% chez les ouvriers. Il ne faut pas oublier que le premier comportement des ouvriers, surtout aux élections européennes, c'est le non-vote. Mais quand on regarde les scores de Bardella qui tutoie les 50% par rapport à ce que Guillaume a dit, respectivement, les ouvriers votent à 9% pour Glucksmann, 6% pour les écolos, 4% ou inversement, 4% pour les écolos, 6% pour la liste Manon Aubry. C'est qu'on entend des leaders de la gauche NUPES convoquer les classes populaires, les ouvriers. Ça fait bien longtemps qu'elles ne votent plus pour cette gauche qui, c'est vrai, souvent apparaît en décalage sur les questions d'insécurité, sur les questions migratoires, avec le discours attendu des catégories populaires. Maintenant, que le RN appelle à la gauche, qu'on se souvient de ce qu'avait dit Jean-Marie Le Pen le 21 avril 2002, hein, je suis socialement de gauche, financièrement de droite, surtout de France, je dis la phrase avec quelques erreurs, mais c'est une antienne du RN qui veut apparaître ni à gauche ni à droite, mais en tout cas ce qui frappe, c'est la gauche qui a un problème d'espace, un problème d'incarnation. Hein. Jean-Luc Mélenchon est l'homme populaire et l'homme politique le plus impopulaire après Éric Zemmour dans notre baromètre, il faut fiduciel pour Paris Match et Sud Radio, et également un problème de logiciel idéologique, puisque sur quasiment tous les sujets que la France insoumise préempte, le racisme systémique, la police tue, les émeutes qui étaient des émeutes sociales, etc., ils sont en décalage, ils ne sont pas suivis par une majorité de sympathisants de gauche.
Mais peut-être qu'ils sautent aussi cette élection européenne, peut-être que ce n'est pas leur objectif, qu'ils visent peut-être à moyen ou plus long terme, en tout cas, Guillaume Bigot, notamment sur cette logique voilà, du pari, la France insoumise, de parler, de mettre en avant sans cesse ce conflit israélo-palestinien.
Oui, mais là, il y a quand même un problème pour eux, c'est que leur force, c'était à la fois une certaine forme de radicalité, la bordélisation, parce qu'ils sentaient, et c'est une analyse qui n'est pas fausse, qu'il y a une telle frustration, une telle colère, toutes choses égales par ailleurs dans le pays, qu'ils arrivaient à capter ça. Très bien.
Faire du conflit.
Ouais. Faire du conflit. Maintenant, ils font du conflit, ils ont trouvé Gaza pour faire du conflit. Glucksmann a trouvé l'Ukraine pour rassembler ses troupes, d'ailleurs, en vis-à-vis du macronisme, pour essayer de prendre au macronisme là, cette espèce de flambeau de la défense, finalement, des intérêts constitués ou du statu quo. Et en réalité, dans cette grande manœuvre, on voit pas très bien où est, enfin, ce que le LFI a à perdre, c'est la domination, c'est l'hégémonie sur la gauche, parce que là, Glucksmann est en train de les doubler quand même. La force de LFI, c'était soit d'incarner une unité, mais ils ont bordélisé eux-mêmes, ils ont saboté eux-mêmes leur coalition électorale, et deuxièmement, l'autre force était quand même d'être très majoritaire pour pouvoir tous les rassembler. Et là, ils ne sont plus majoritaires, ils n'arrivent plus à les rassembler, ils sont doublés par une autre force qui est à gauche, donc c'est très très gênant pour eux.
Frédéric Dabi, juste pour conclure rapidement, quand on parle du conflit israélo-palestinien, que LFI fait tout, en tout cas, pour le mettre à l'agenda, est-ce que c'est un sujet de discussion qui revient beaucoup chez les Français? Est-ce que ça marque ou pas?
Oui, ça marque parce qu'il y a le traumatisme du 7 octobre, parce qu'elle est morte des bombardements à Gaza. Dans notre ligne d'hier et fiduciaire, 40% des Français en ont parlé. En parler, c'est une chose, que ce soit une motivation de vote, ce n'est bien sûr pas le cas. Et c'est une vraie difficulté pour Manon Aubry, qui veut parler d'Europe, de voir son discours un peu pollué par une sorte d'obsession émanant de beaucoup de leaders de la France insoumise sur le conflit, et avec cette occupation des universités et cette envie, comme dit Guillaume, de bordéliser le système et la campagne.
Frédéric Dabi, directeur général opinion du groupe IFOP, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Un grand merci aussi à vous. Merci. Guillaume Bigot, je vous redonne rapidement les résultats du rolling sur les intentions de vote. Pour l'instant, le RN en tête, 31%, 16,5% pour la liste Renaissance, 13,5% pour la liste Parti Socialiste Place Publique, Raphaël Glucksmann. Et puis derrière, égalité, les Républicains 7,5%, la France Insoumise 7,5% aussi. Bah justement, puisqu'on parle DLR, dans un instant, Jean-Jacques Bourdin reçoit la tête de liste de DLR. C'est François-Xavier Bellamy, à 8h30, 9h, l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin. Je vous souhaite une très belle journée à tous sur Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Il était une fois un charmant jeune homme super stressé par l'arrivée imminente de sa dulcinée. Vite, vite, une idée pour dîner. Oh, les tomates rondes en grappe Origine France à 1,99€ le kilo chez Aldi. C'est parti pour la recette adorée de sa belle, les tomates à la provençale. Eh, t'as géré, mec. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, offre valable jusqu'au samedi 4 mai. Info sur aldi.fr.
Là, vous entendez? Et vous vous dites, bonne idée le roi Merlin, j'ai plein de temps et plein de petits travaux à faire. Sauf que là, quand je dis qu'avec le programme de fidélité, le roi et moi, jusqu'au 14 mai, vous bénéficiez de 15€ de remise immédiate tous les 150€ d'achat, là vous vous dites, ok, eh ben y a plus qu'à s'y mettre.
Le roi Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
Conditions et modalités de l'offre en magasin ou sur leroimerlin.fr.
Avouez-le, c'est bien pratique les vélos électriques. Surtout quand les beaux jours reviennent et que vous rêvez de petites balades en forêt.
Comment ça, petites?
Ok, alors pour les petites et les grandes virées, chez Decathlon, on a conçu un vélo tout chemin électrique avec une autonomie jusqu'à 100 km. Et pour vivre le sport grandeur nature, cette semaine, le vélo électrique Riverside 520E est à 999€ au lieu de 1399, soit 400€ de réduction.
Décathlon, élu meilleure chaîne de magasins de sport de l'année.
Sud Radio à Dijon, en DAB+.
Sud Radio.
Gémeaux, le prêt à vivre.
Si vous êtes prête à expliquer à vos copines que non, Virginie, c'est toujours pas une nouvelle robe, c'est encore la même, que je peux porter de plusieurs manières.
Alors vous êtes prête à profiter d'une offre exceptionnelle. En ce moment, chez Gémeaux, la robe multiposition est à 15,99€ au lieu de 29,99€. Offre valable jusqu'au 14 mai. Conditions en magasin et sur gémeaux.fr.
Quand on part en vacances, mes parents ils me réveillent en pleine nuit pour éviter les embouteillages.
Bah moi, les miens, ils se couchent super tard pour finir la valise.
Mon père aussi. Et en plus, il ne veut jamais s'arrêter pour arriver plus vite. Après, il est épuisé.
Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les deux heures.
Assurance Prévention. Une association de France Assureurs.
French Days à Lando.
French Days sur Zalando.
Ah non, c'est French Days sur Zalando. D'ailleurs, faut se dépêcher. Les French Days, c'est jusqu'au 9 mai sur Zalando, avec jusqu'à moins 50% sur nos marques préférées. Être à la mode avec des réductions, c'est très français, ça. Remise valable sur le prix d'origine. Détails de l'offre sur l'application Zalando et sur Zalando.fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, il est à 79 centimes.
Le concombre ?
Très oui, en ce moment chez Lidl, le concombre est à 79 centimes la pièce.
Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Et le deuxième est à moins 50%, soit 39 centimes le concombre. Ça revient à 1,18€ le lot de deux.
Oh, ils s'encombrent vraiment pas, on est mal.
Bah c'est le concombre.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 1, Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
IKEA.
On est quand même bien au soleil sur notre balcon, hein.
Mais tellement.
Mais il manque un truc.
Un serveur qui fait « Je vous sers quelque chose ?»
Ouais, enfin, surtout une table et des chaises.
Notre nouvelle offre va mettre tout le monde dehors. Jusqu'au 12 mai, profitez de moins 20% sur les tables et chaises d'extérieur avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous en magasin et sur IKEA.fr.
Sud Radio, l'invité politique. Jean-Jacques Bourdin.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Vous voulez savoir? Eh bien, parlons vrai ce matin avec François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux Européennes. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci
ce
à
matin,
vous.
Dernier sondage. Il date d'hier, 17h. Vous savez que nous réalisons, enfin, c'est l'IFOP fiduciale pour LCI, Le Figaro et Sud Radio qui réalisent un sondage quotidien. Vous êtes à 7,5, Bardella à 31, Valérie Haye à 16,5 et Glucksmann à 13,5. Ça patine un peu. Pourquoi ?
Parce que je crois que les gens n'ont pas encore complètement la tête à l'élection européenne. Je le vois partout sur le terrain, en allant partout en France. Mais je ne doute pas que quand ils viendront à cette élection, les Français verront que le vrai sujet, c'est pas une sorte d'éternel deuxième tour de la présidentielle qu'on voudrait leur imposer. Le vrai sujet de cette élection, c'est pas Macron ou Le Pen. Le vrai sujet, c'est de réussir à faire en sorte que la voix des Français soit entendue demain pour mener les combats qui comptent au Parlement européen. Et ces combats, ils s'organisent autour du grand clivage qui structure la vie démocratique en Europe, c'est-à-dire le clivage entre la droite et la gauche. Et nous, nous représentons la droite européenne, celle qui veut sortir de la logique des normes, des contraintes, des contrôles permanents que la gauche n'a cessé d'imposer au cours des dernières années.
Le vrai sujet, c'est l'Europe. C'est ce que vous dites. À juste raison, François-Xavier Bellamy. Pourquoi ? Parce que on parle peu d'Europe dans cette campagne jusque-là, ce que personnellement je déplore, parce que quelle Europe veut-on ? Pour quelle Europe va-t-on voter ? Alors, d'abord, quelle est la différence, votre différence avec le Rassemblement National, avec Jordan Bardella ?
Mais est-ce que vous savez ce que pense le Rassemblement National sur l'Europe ? Il y a 5 ans, moi je me rappelle de M. Bardella qui disait que la priorité absolue de son parti, c'était sortir de l'Europe, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN, qui est quand même pas un petit sujet européen, c'est la question de la défense et de la sécurité du continent. Et aujourd'hui, il dit le contraire sur tous ces sujets. En réalité, le Rassemblement National n'a aucune boussole, et ça se traduit dans le fait qu'au Parlement européen, il est aux abonnés absents. Vous savez, moi je vais partout en France et j'entends des gens qui me disent « on veut voter pour M. Bardella parce que on a essayé la droite, on a essayé la gauche, on a essayé le milieu, et tout le monde nous a déçus, et eux, on les a pas essayés. Mais moi, je voudrais rappeler aux Français qu'aux élections européennes, vous les avez déjà essayés. On leur a déjà accordé 2 fois, en 2019 et en 2014, le plus grand nombre de députés européens. Ils ont déjà gagné l'élection européenne. Et qu'est-ce que ça a changé pour la France ? Qu'est-ce que ça a changé pour les Français ? Rien. Au bout de 10 ans, avec cette confiance des Français, dont ils étaient dépositaires, les élus du Rassemblement National n'auront pas bougé une virgule dans un seul texte européen. C'est nous qui avons mené les batailles pour faire baisser les factures d'électricité des Français. C'est nous qui nous sommes battus pour faire en sorte qu'on sorte l'agriculture de la stratégie de décroissance qui était imposée par les macronistes, par les Verts et par les socialistes. C'est nous qui avons fait en sorte que l'Europe puisse renforcer son industrie là où d'autres, au contraire, cherchaient à la fragiliser.
Je vais revenir. Oui, donc, mais quand on est au RSA en France à 60 ans, on se tourne vers le RN et non pas vers LR. Pourquoi ?
Mais moi, je comprends la colère des gens.
Parce que vous avez été au pouvoir et que, justement, les Français veulent changer.
Et vous me reconnaîtrez, cher Jean-Jacques Bourdin, que moi, j'ai pas eu l'occasion d'être au pouvoir.
Mais sur votre liste, certains étaient au pouvoir. Pardon, Nadine Morano, Brice Hortefeux, qui sont là depuis 10 ans. C'est une rente, être député européen.
Ça compte d'avoir des gens d'expérience pour pouvoir être efficace. Et ça compte aussi d'avoir du renouvellement. Moi, je me suis engagé dans cette élection en 2019. Ça fait 5 ans que je me bats au Parlement européen tous les jours pour faire entendre la voix des Français. Que je me bats avec des gens qui, effectivement, ont une expérience du gouvernement. Parce que si vous voulez gagner des batailles, c'est utile pour avoir de l'influence. Mais c'est utile aussi d'avoir des nouveaux visages. Et je mène cette campagne avec Céline Imar, qui est agricultrice dans le Tarn, qui partage son temps en ce moment entre la campagne européenne et les semis dans son exploitation. Avec le général Christophe Gomard, qui est ancien patron des forces spéciales françaises, ancien patron du renseignement militaire, et qui apportera son expérience des questions de défense, parce que ces questions-là, elles vont être cruciales dans le mandat qui vient. Donc vous voyez, notre équipe, parce que c'est une équipe, elle est faite avec un seul but, c'est d'être utile aux Français demain au Parlement européen. Parce
bien,
que c'est ça qui compte.
François-Xavier Bellamy, parlons d'Europe, donc, de défense européenne. Vous venez d'évoquer le général Gomard, défense européenne. Est-ce qu'il faut bâtir cette défense européenne et même l'élargir avec la Norvège, la Grande-Bretagne, les Balkans, pourquoi pas ? Vous y êtes favorable ? Quelle défense européenne voulez-vous ? En voulez-vous une, d'ailleurs ?
Moi, je veux que les pays européens s'engagent ensemble pour pouvoir se défendre sans avoir à dépendre d'autres puissances qu'eux-mêmes.
Donc, et c'est ça le défi pour nous. Ensemble, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un traité européen sur la défense ? Ça veut dire une construction, la construction d'une défense européenne ? Ça veut dire quoi concrètement ?
Ça veut dire concrètement que la défense de nos pays, elle reposera toujours sur nos armées nationales. Et moi, je ne crois pas un instant au fantasme d'une armée européenne parce que ça n'aurait pas de sens, ça n'aurait pas de sens démocratiquement, ça n'aurait pas de sens non plus d'un point de vue opérationnel. En revanche, je crois qu'on peut faire beaucoup plus ensemble avec nos partenaires européens.
Quoi ?
Première chose, renforcer notre industrie de défense. Aujourd'hui, on sait que si les forces françaises devaient être engagées dans une opération comme celle que vit aujourd'hui l'Ukraine, eh bien, elles manqueraient rapidement de tout pour pouvoir tenir la distance. Elles manqueraient de munitions, elles manqueraient d'équipements, de matériel. Donc il faut qu'on renforce notre industrie de défense. J'ai été rapporteur au Parlement européen du premier fonds européen de défense, c'est-à-dire le premier financement commun que les pays européens mettent dans la recherche et l'innovation en matière d'industrie de défense. Et nous proposons de tripler le montant de ce fonds. Par ailleurs, c'est évidemment bénéfique pour nos emplois. Vous parliez de ces Français qui aujourd'hui s'en sortent pas. Eh bien, si on est moins dépendant, on pourra aussi être capable d'avoir plus de valeur ajoutée dans nos pays, plus d'emplois pour pouvoir produire les moyens de notre défense.
Comment aider à faire en sorte que la Russie n'atteigne pas la frontière polonaise ? Je vous dis ça parce que ça peut arriver.
Bien sûr.
Ça peut arriver. Que dans ce cas-là devrions-nous faire ?
Mais la première chose, c'est de faire en sorte que ça n'arrive pas. Et donc d'apporter aux Ukrainiens ce dont ils ont besoin. Vous savez, moi, je vois que le président de la République a encore hier répété cette espèce de débat complètement aberrant sur l'envoi de troupes au sol. Aberrant parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'avoir ce débat. Ça ne fait que mettre encore plus en danger les forces ukrainiennes. Parce que dès que le président de la République émet cette hypothèse-là, elle est immédiatement démentie. Elle a été démentie par l'OTAN lui-même, démentie par la plupart des pays européens, dont l'Allemagne. Le vrai sujet, la vraie demande des Ukrainiens, et d'ailleurs Emmanuel Macron ne conteste pas que les Ukrainiens ne demandent pas qu'on envoie des troupes au sol. Ce que demandent
les
Ukrainiens...
Ils ne l'ont pas demandé.
Exactement, et le président le dit. Ce que demandent vraiment les Ukrainiens, c'est des matériels, c'est des munitions, c'est des moyens concrets pour mener le combat dans lequel ils sont engagés. Et moi, j'étais, il y a quelques jours seulement, j'étais dans une usine, voyez, soyons concrets, une usine qui fabrique des véhicules blindés dans le centre de la France. Et cette usine nous disait, nous, l'État français nous a pas spécialement demandé d'intensifier la production, on travaille pas plus qu'avant, on travaille un peu pour l'Ukraine, mais on ne sait pas pour combien de temps. Moi, je trouve que c'est ça le vrai problème. C'est qu'on aurait dû faire en sorte que nos industriels soient mobilisés pour garantir la production nécessaire, d'abord pour équiper les forces ukrainiennes, mais simultanément pour nos propres forces armées. Parce que je le répète, Jean-Jacques Bourdin, aujourd'hui, nos armées n'ont pas les moyens matériel nécessaire pour mener un combat de haute intensité.
Oui, la Russie qui est en train d'essayer de mettre la main sur la Géorgie, on l'a vu. Si la Russie gagne en Ukraine, la sécurité en Europe sera menacée, vous le dites ?
Si la Russie gagne en Ukraine, ce sera un problème pour toute l'Europe. D'abord, ce sera une défaite parce que nous aurons...
Aux portes de l'OTAN, elle sera aux portes de l'OTAN.
Nous aurons laissé aux portes de l'Europe et aux portes de l'OTAN, nous aurons laissé se faire la démonstration que la violence armée peut l'emporter sur le droit international. Et c'est ce que Vladimir Poutine veut montrer. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul. Vous avez, parce qu'on parle beaucoup de l'Ukraine et on a raison d'en parler, mais vous avez d'autres autocrates, vous avez d'autres puissances qui tentent de faire cette démonstration. Je pense tout près de l'Europe à la situation de l'Arménie, qui est aujourd'hui menacée par l'Azerbaïdjan, qui a été attaquée par l'Azerbaïdjan et par la Turquie, elle aussi voisine de l'Europe. Je pense évidemment à la Chine.
L'Arménie lâchée par les Russes.
L'Arménie lâchée par les Russes, justement parce qu'elle voulait sa souveraineté démocratique. Et là aussi, c'est, je crois, d'une compétition globale que nous voyons aujourd'hui les effets. La question est-ce que nous voulons défendre nos démocraties ? Et malheureusement, je vois que tout le monde n'est pas très clair sur ce sujet dans le débat européen.
François-Xavier Bellamy, le président chinois sera en France la semaine prochaine. La Chine et les États-Unis se moquent, mais vraiment totalement, des règles du commerce international. Est-ce que l'Europe doit se protéger, quitter, abandonner cette naïveté européenne, imposer, je ne sais pas moi, des barrières douanières, augmentation des droits de douane sur, pourquoi pas, je prends un exemple, les voitures chinoises.
Bien sûr, sur les voitures. Prenons cet exemple tout simple.
Oui,
il y a aujourd'hui une stratégie chinoise très claire de surproduction industrielle.
Oui.
C'est-à-dire que la Chine produit beaucoup trop même pour son propre marché, et donc elle vend à prix cassé. On voit comment elle a détruit, par exemple, la filière française des panneaux solaires. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'en effet, nous sommes trop naïfs. Et donc nous disons deux choses sur la voiture. La première chose, il faut faire comme les États-Unis, imposer des droits de douane aux voitures chinoises à l'entrée du marché unique. Ces droits de douane en Europe, ils sont de 10%. Aux États-Unis, de 27,5%.
Oui, près de 30%. Oui.
Donc il faut qu'on fasse la même chose, évidemment. Il faut qu'on protège nos marchés. Et deuxième chose, pardon de le dire, mais au Parlement européen, on aura vécu au cours de ce mandat une décision dramatique portée par la gauche, par les macronistes, par les Verts, qui a fait le jeu de la Chine. Cette décision, c'est d'imposer aux Français, à partir de 2035, 100% de véhicules électriques. Pourquoi cette décision est dramatique ? Parce qu'en réalité, il n'y a pas une seule bonne manière de décarboner la voiture. Il n'y a pas une seule bonne manière de faire des voitures qui polluent moins. Mais en choisissant de tout concentrer sur l'électrique, on a choisi d'abord des voitures qui vont coûter très cher aux Français, et surtout, on a choisi la technologie sur laquelle la Chine est en avance sur nous depuis 10 ans. Et ça, c'est d'une certaine manière un cadeau fait à Pékin, au régime chinois. Et moi, je dis, avec la droite, que demain, au Parlement européen, nous devons abroger cette obligation. Parce que les Français veulent pouvoir continuer de se déplacer avec des voitures accessibles. Nous avons une industrie automobile à protéger, à sauver, qui a le droit de chercher d'autres solutions, d'autres options pour décarboner les transports. Il n'y a pas, encore une fois, que l'électrique. Et le tout électrique a aussi un impact environnemental. Parce que, honnêtement, rouler dans des voitures qui sont fabriquées en Chine avec des batteries qui sont fabriquées à partir de terres rares extraites dans des conditions parfois lamentables,
des batteries
ça
qui
a aussi
être
un impact sur l'environnement.
En France aussi, de plus en plus. Hein.
Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est la Chine qui est en train de rentrer massivement sur le marché automobile parce que c'est la technologie sur laquelle elle est en avance sur nous.
François, Xavier Bellamy, vous parliez d'argent européen pour financer le réarmement militaire en Europe, de l'Europe, mais il faut aussi de l'argent européen pour développer les nouvelles technologies, pour développer tout ce qui est lutte contre le réchauffement climatique, pour une réindustrialisation de l'Europe. Donc vous demandez plus d'Europe, si je comprends bien.
Ben on a besoin
plus
que l'Europe.
D'Europe.
On a besoin que l'Europe se concentre sur les sujets sur lesquels elle a une vraie valeur ajoutée.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a besoin de moins de normes européennes pour contraindre nos vies quotidiennes. On a besoin de plus de stratégies communes en Europe pour renforcer nos pays dans les défis qu'ils affrontent ensemble. Et cet argent dont on a besoin, pardon de le dire, hein, mais c'est pas forcément comme le propose Emmanuel Macron, et c'est à mon avis surtout pas d'ailleurs de la nouvelle dette européenne, des nouveaux impôts européens, parce que c'est ça. Oui, mais que défend Emmanuel Macron dans son discours de la Sorbonne.
Alors il faut créer quoi ? Il faut créer quoi ? Des fonds de pension européens ? Il faut créer quoi ? Il faut attirer l'épargne des Européens vers l'Europe et non pas cette épargne qui fuit vers les États-Unis.
Aujourd'hui, l'épargne des Européens, elle alimente l'économie américaine.
Oui,
ça veut dire qu'avec l'épargne des Européens, on finance les retraites des Américains et on finance la possibilité pour les États-Unis d'acheter nos propres entreprises. C'est vraiment tout faux sur toute la ligne. Donc il faut effectivement qu'on soit capable de mobiliser ce levier exceptionnel. Mais en réalité, c'est un sujet crucial pour l'avenir, parce que vous voyez, Jean-Jacques Bourdin, dans quelle situation Emmanuel Macron a conduit notre pays. On est aujourd'hui en situation de faillite budgétaire, alors qu'on a les impôts et les charges les plus élevés du monde. Il n'y a pas un pays dans lequel il y ait une pression
pourtant,
de prélèvement obligatoire plus importante.
La France reste le pays le plus attractif d'Europe.
Et pourtant, mais ça, c'est peut-être un peu particulier, c'est parce qu'en réalité, du coup, on vend nos entreprises à des acteurs étrangers. Mais la vérité de cette affaire, c'est que malgré cette dépense publique extrêmement élevée, on a des services publics qui sont tous en situation d'extrême fragilité. Donc, le vrai sujet, c'est surtout pas de faire les mêmes erreurs en Europe que celles qu'on a faites en France. Et c'est de dire non au projet, à mon avis, très dangereux qu'Emmanuel Macron propose de créer de la nouvelle dette européenne et de créer des impôts européens. Parce que ça, c'est la fuite en avant à Bruxelles de ce qu'Emmanuel Macron a déjà fait à Paris. C'est pas ça qui renforcera l'Europe. Au contraire, ce dont nous avons besoin, c'est au contraire de faire baisser les impôts, de faire baisser la dépense publique pour retrouver la liberté, la capacité d'énergie qui viennent d'abord de la société, des Français et des citoyens de nos pays.
Pour investir, il faudra trouver de l'argent. Bien. Mais Sciences Po, qui ferme aujourd'hui, école occupée par des pro-palestiniens, est-ce que l'État doit envoyer les forces de l'ordre ? Doit faire évacuer ? Franchement.
Ça aurait dû être fait depuis bien longtemps. Et moi, je le dis depuis le début, cet accord passé entre la direction de Sciences Po et les étudiants qui bloquaient, cet accord est scandaleux. Parce qu'en réalité, il conduit à l'humiliation d'une direction, à l'humiliation d'un gouvernement qui a approuvé cet accord, qui aujourd'hui se trouve évidemment placé devant la surenchère de ceux qui bloquent.
Qui a désapprouvé cet accord. Alors aujourd'hui, il faut faire évacuer.
Vous savez, on est confronté à une menace. Oui. On est confronté à une menace très importante.
Laquelle?
Qu'est-ce qu'on entend à Sciences Po aujourd'hui? On entend derrière la préoccupation parfaitement légitime pour les populations civiles de Gaza.
Oui, allez-y. Je vous pose une question après.
Derrière cette préoccupation qui est parfaitement légitime, ce qu'on entend, c'est des choses qui ne sont pas légitimes du tout. Ce qu'on entend, c'est des expressions antisémites. Ce qu'on entend, c'est des slogans qui veulent dire la destruction d'Israël en tant que tel. Et moi, je dis que face à cela, on n'a pas le droit de dire qu'on organise des débats. Parce que c'est ce que la direction de Sciences Po a fait hier. Mettre tout le monde autour de la table. Mais depuis quand on organise un débat sur la légitimité de l'antisémitisme? Il faut mettre un stop à tout ça. Et quand vous voyez qu'aujourd'hui, l'ayatollah Khomeini félicite les étudiants de Sciences Po...
Non, c'est pas Khomeini, c'est...
Khamenei, pardon.
Khamenei, attention.
Heureusement que
Khamenei est mort.
C'est la fatigue.
Oui, c'est l'ayatollah Khamenei qui dirige la République islamique.
Ayatollah Khamenei, c'est le sponsor du terrorisme islamiste international qui félicite les étudiants de Sciences Po. On se dit que quelque chose ne va pas du tout dans ce pays.
Alors, j'ai une question à vous poser. Un étudiant sensible à la cause palestinienne qui manifeste contre le comportement de l'armée israélienne à Gaza, est-il forcément un antisémite?
Non, à condition, je vais vous dire Jean-Jacques Bourdin une chose toute simple, à condition qu'il dénonce la force qui a lancé dans l'enfer la population civile de Gaza. Et cette force, elle s'appelle le Hamas. Parce qu'en fait, tout cela a commencé le 7 octobre. Israël a été attaqué. Et dans ce pogrom antisémite lancé par le Hamas savait très bien que la conséquence de tout cela serait évidemment la riposte israélienne. Et donc, il mettait en avant... Parce qu'il s'est toujours servi des populations civiles comme d'un bouclier humain. Il mettait en avant, dans cet enfer, la population civile qu'il est supposé défendre.
Est-ce que Benjamin Netanyahou doit être conduit devant le tribunal pénal international?
Moi, je crois que, et on l'a toujours dit, Israël, aujourd'hui, est attaqué. Israël a le droit de se défendre. C'est la première chose à dire, Jean-Jacques Bourdin.
Oui,
mais c'est la première chose à dire.
Non, mais ça,
c'est quand même très important.
Très bien.
Il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui oublient le 7 octobre, vous savez.
Est-ce que vous pensez?
Et deuxièmement, Israël a le devoir de se défendre dans le respect du droit international. On l'a toujours dit et on l'a toujours répété.
Est-ce qu'il est bafoué, ce droit international à Gaza?
Aujourd'hui, il est manifestement bafoué. Et nous demandons, nous avons demandé, le Parlement européen a demandé, ça a été un combat transpartisan, demander un cessez-le-feu humanitaire d'urgence pour protéger les populations civiles. Mais encore une fois, je le redis, le premier responsable de cette situation, c'est le Hamas. Et moi, je suis révolté de voir qu'aujourd'hui, vous avez des étudiants dans nos amphis, à Sciences Po, dans le monde occidental, qui, au motif qu'ils veulent défendre le droit des populations civiles palestiniennes, finissent par endosser la cause du Hamas. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et pardon de le dire, mais quand la gauche, quand l'extrême gauche, quand la France insoumise reprend ses slogans à son compte, quand elle exploite cette situation, elle donne aussi une légitimité aux menaces qui pèsent sur les personnes de confession juive sur notre sol, dans notre pays. Quand vous avez à Viry-Châtillon...
Elle donne une légitimité à l'antisémitisme.
Quand vous avez à Viry-Châtillon une femme qui est séquestrée, menacée parce qu'elle est juive, au fond, c'est le 7 octobre qui se répète sur le sol français. Parce que c'est ça, le 7 octobre. Ce sont des civils, des armées, des enfants, des femmes, des gens qui n'y étaient pour rien dans la politique de M. Netanyahou.
Ça veut dire que LFI encourage un 7 octobre sur le sol français ?
En tous les cas, ça veut dire que LFI ferme les yeux sur la réalité de l'antisémitisme qui monte dans notre pays. Et pardon de le dire, mais quand j'entends Mme Hassan, candidate sur la liste de la France insoumise, qui, après le 7 octobre, quand on lui pose la question de savoir si l'action du Hamas est légitime, répond oui, moi je dis, et je dis depuis le début, que j'appelle ça de l'exploitation politique de l'apologie du terrorisme. Voilà, c'est tout.
Est-ce que la France doit reconnaître un État palestinien ?
Aujourd'hui, le sujet n'est même pas celui-là sur la table.
Oui, non, mais si, parce que c'est l'une des conditions pour mettre en marche une future paix avec une solution à deux États. Vous prenez une solution à deux États, j'imagine.
Mais, encore une fois, la paix, elle est nécessaire, mais on ne fera pas...
Est-ce que vous prenez une solution à deux États ?
C'est d'abord aux Israéliens et aux Palestiniens de trouver les conditions de cet accord.
Oui.
Moi, je crois que ça peut être une solution. J'en suis convaincu. Mais je ne vais pas faire semblant que depuis Paris, je sais tout mieux que les gens qui, là-bas, ont le devoir de construire ensemble cette paix.
Ne faut-il pas les encourager ?
Bien sûr, certainement, il faut
en
appuyer...
En reconnaissant un État palestinien, est-ce qu'on encourage cette solution ?
Il faudra appuyer toute initiative de paix. Mais je le redis, aujourd'hui, le vrai sujet, c'est d'abord la destruction nécessaire, impérative, absolument indispensable, à toute paix future d'ailleurs, indispensable pour le peuple israélien, indispensable aussi pour le peuple palestinien, c'est la destruction de cette force terroriste islamiste qui s'appelle le Hamas et qui est le principal obstacle à toute paix possible dans la région.
François-Xavier Bellamy, j'ai une dernière question sur la GPA parce qu'un sondage est paru il y a deux jours, hier ou avant-hier, je ne sais plus, 56% des Français sont favorables à la GPA pour les couples homosexuels, pas vous, pourquoi est-ce que vous comprenez qu'un couple homosexuel devienne parent ?
Mais d'abord, le sujet
des enfants.
Vous savez, le sujet ne concerne pas spécifiquement les couples homosexuels. Un très grand nombre de GPA, peut-être une majorité, on a du mal à le savoir parce qu'il n'y a pas de statistiques, mais en tous les cas, un très grand nombre de GPA sont faits par des couples hétérosexuels.
Hétérosexuels.
Donc le sujet n'est même pas là.
C'est vrai.
Et je crois que c'est très important qu'on le dise parce que il faut surtout pas rentrer dans un débat qui serait
couples hétérosexuels qui sont très contents et très heureux d'avoir pu avoir recours à la GPA.
Mais la vraie et grande question, moi je comprends parfaitement le désir d'enfant, et je respecte ce désir. Je comprends parfaitement qu'on veuille avoir un enfant. Le vrai problème qui nous est posé à tous, la vraie grande question, c'est est-ce que le désir d'enfant justifie un droit à l'enfant ? Et ça, pour le coup, je ne le crois pas. Et vous savez, ce débat sur la GPA, on l'a eu au Parlement européen, et on l'a partagé, moi, j'ai déposé des amendements pour avancer dans le sens... D'une reconnaissance de la GPA comme un cas d'exploitation, exploitation du corps des femmes, marchandisation du corps des femmes, marchandisation de la vie d'un enfant. Et cette expression, ce travail-là, nous l'avons partagé avec des élus de tous bords, avec des élus de gauche, qui sont eux aussi capables de reconnaître que le marché ne doit pas être tout puissant.
Non à la marchandisation,
c'est quelque chose qui doit nous réunir.
Mais oui à la GPA. Si j'ai bien compris.
Non, parce que la GPA, c'est dans
ce
son
que
principe...
de la marchandisation, la GPA ?
La gestation... J'entendais récemment Gabriel
Est-ce que ce n'est qu'une question financière ? Non, je vous pose ça parce que j'ai l'impression que vous réduisez la GPA à une question strictement financière.
Mais vous savez que c'est une industrie aujourd'hui, la gestation pour autrui. C'est 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière.
Mais ce n'est pas que de l'industrie, non ?
Mais c'est d'abord une industrie qui fait du profit sur le corps des femmes. Vous avez déjà lu, Jean-Jacques Bourdin, un contrat de gestation pour autrui. Vous avez déjà vu les conditions qui sont imposées à une femme qui va s'engager dans une gestation pour autrui pour en tirer de l'argent. Et moi, je voudrais justement surtout sortir des femmes de cette situation dans laquelle elles sont contraintes par la pression économique de passer par cette pratique. Parce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'avait dit, vous voyez, je cite aussi des gens qui ne sont pas de mon camp. Jean-Luc Mélenchon avait dit « Je croirai à la GPA quand je verrai une femme riche porter l'enfant d'une femme pauvre ». La vérité, c'est que c'est l'inverse qui se produit aujourd'hui. Et c'est l'inverse par principe. Parce que toute femme sait... que, en réalité, on fait pas ça d'une certaine manière de gaieté de cœur, parce que c'est pas un acte anodin. Et c'est pas un acte sans risque, d'ailleurs, non plus pour une femme. Donc, voilà, je pense que c'est pas aujourd'hui la question qui préoccupe le plus les Français, mais une question qui touche aussi à la dignité humaine.
Alors, autre question qui suscite débat, c'est l'IVG, évidemment. J'ai une question, quand même. Médecin, est-ce que vous pratiqueriez une IVG ?
Ah, attendez, je suis
si
pas...
Vous étiez médecin, si vous étiez médecin, est-ce que vous pratiqueriez une IVG ?
Mais attendez, Jean-Jacques Bourdin, vous plaisantez ?
Pourquoi je plaisante ?
Elle vient d'où cette question ?
Ben elle vient.
Je suis candidat à une élection européenne.
Oui, non, mais d'accord.
Mon métier,
mais
c'est professeur de philosophie.
Mais c'est pas une question de philosophie.
Mais
ben
c'est
je vous pose
métier.
La question, est-ce que vous pratiqueriez une IVG ? Mais si vous étiez médecin.
Alors, je vous réponds d'une manière très simple.
Est-ce que vous pouvez faire valoir votre droit de retrait, votre clause de conscience ?
Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, c'est là aussi un sujet qui devrait nous réunir. Vous savez, je vois bien à quel point ces sujets sont souvent utilisés pour fracturer et pour diviser.
C'est pas
mais il y a une question qui devrait nous réunir.
Que tout soit clair.
C'est la question de la conscience.
Bellamy.
Mais je suis très clair en vous répondant que la question qui devrait nous réunir, c'est celle de la liberté de conscience, qui est aujourd'hui très menacée dans notre
Donc
pays.
Donc, vous ne passerez pas sur ce sujet spécifiquement. Vous ne pratiqueriez pas une IVG, vous feriez jouer votre liberté de conscience.
Je ne suis pas médecin, Jean-Jacques Bourdin. Je vois bien où vous voulez m'emmener, je vois bien ce que vous voulez me faire. faire dire. Ça n'a strictement aucun sens. Non. Je vous parle d'une question qui, pour le coup, concerne l'activité politique. C'est celle, justement, de la défense de la liberté de conscience. Pas spécifiquement sur ce sujet, sur tous les sujets, au fond. Mmh. On voit bien que la question de la liberté, et ça, je suis sûr que c'est une bataille qu'on partage, cette question de la liberté, elle est profondément remise en cause aujourd'hui. La liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de s'engager. Mmh. Et cette liberté-là, elle est aussi menacée dans le monde médical. La défense de la liberté de conscience, c'est une question qui devrait réunir tous les démocrates sincères.
Bien, merci François-Xavier Bellamy. Il est 8h58, vous êtes sur Sud Radio, 0826 300 300. Vous intervenez évidemment après les informations de 9h.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
7h, Sarah profite de cédera la redoute intérieure. 8h, elle allume la lumière. 9h, Sarah envisage vraiment un métier de testeuse de draps. Pour les French Days, la housse de couette scénario en percale de coton coloris chocolat est à moins 50%, soit 19,99€. Offre valable jusqu'au 7 mai, voir conditions sur laredoute.fr. French Days, jour français. La Redoute, vivre le beau.
Écoutez Sud Radio Le Havre en DAB+.
Sud Radio.
Super Diète, le laboratoire familial français de la santé naturelle et bio, fabricant de compléments alimentaires depuis plus de 60 ans dans les Hauts-de-France. Fidèle à l'esprit de son fondateur naturopathe, Super Diète restitue le meilleur des plantes pour vous accompagner à être acteur de votre santé. Super Diète, respectons votre nature. Retrouvez-nous sur superdiète.com.
En ce moment, pour vous accompagner vers une perte de poids en douceur, choisissez le protocole minceur Super Diète, une formule 100% plante et bio pour votre santé. Bougez plus.
C'est le printemps chez Jouet Club. Du 20